Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Oui, nous disons merci, nous disons merci, nous disons merci. Que le pauvre dise que je suis riche, merci. Que le faible dise que je suis fort, merci. Que le malade dise que je suis guéri, merci. Que le pécheur dise que je suis sauvé, merci. Que tous ceux dans nous qui sommes ici, qui sont fatigués, qui sont stressés, disent que ça suffit. Maintenant, nous sommes libérés, nous sommes délivrés, nous sommes fortifiés. Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, de ce que tu nous remplisses maintenant davantage de ta présence, de ce que tu nous remplisses davantage de tout ton fruit de l'Esprit, de ce que tu nous remplisses davantage de toi. Nous te faisons toute la place qui te revient. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Raïka Tarabashindarababa. Barabarabashandarababa. Merci. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ et chers amis de la plateforme, vive méditer, vive gagner. Nous saluons dans la paix, dans la joie et dans la victoire qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 juillet 2021 et c'est l'heure de la méditation du jour. Nous allons essentiellement partager sur le livre de Matthieu au chapitre 22 pour en saisir davantage sur les clés et les secrets qui nous sont révélés dans ce chapitre qui fait partie d'un des 27 livres du Nouveau Testament. Bien-aimés, nos thèmes pour faire les recherches et réussir donc ce parcours de ce jour sont les suivants sous forme de questions. La première question, c'est que retenir de la parabole des noces et comment cela nous interpelle-t-elle? Amen. La deuxième question dans notre démarche de recherche, de réflexion et d'application, c'est apporter des réponses justes et justifiées aux questions difficiles. Et donner des solutions simplifiées et appropriées aux problèmes critiques qui nous sont souvent soumis ou bien posés. Que pouvons-nous apprendre de l'exemple de Jésus-Christ dans toute sa sagesse qu'il a exprimée dans ce texte face aux interrogations de ses adversaires afin de leur répondre comme il faut et de leur imposer silence. Amen. Nous allons revoir tout ça là ensemble. Alors, pour l'équipe de la méditation du jour, nous sommes le frère Orphée des États-Unis en collaboration avec la sœur Caroline du Togo et le frère Almain du Congo, tous des animateurs donc de ce programme de ce jour sous la haute direction du Saint-Esprit. Nous allons commencer à travailler, les amis. Nous vous rappelons tout simplement que BMVG est dans une nouvelle saison de redécouverte d'un 27 livres du Nouveau Testament, livre après livre, chapitre après chapitre. Et dans chaque chapitre, nous allons dans les thématiques d'abord pour voir à peu près les thèmes qui sont développés. Et à travers ces thématiques, nous voyons quels sont les problèmes, les problématiques qui sont posées pour pouvoir les décortiquer. Parce que Dieu veut que nous parvenions à la connaissance, parvenions dans sa sagesse, pour que nous sachions non seulement marcher sur cette terre des vivants, mais nous préparer aussi pour le grand festin des noces de l'agneau dont nous allons parler aujourd'hui. Ceci dit, quels sont les grands mouvements ou thématiques de ce livre de Matthieu au chapitre 22? La première chose qui a été présentée, c'est sur la parabole des noces. Et le deuxième mouvement que nous avons remarqué dans le texte, c'est des questions pernicieuses, des questions pièges qui ont été posées à Jésus sur certaines questions brûlantes de l'heure, à savoir le tribut ou bien les taxes à payer ou l'impôt à payer à César. Ensuite, des questions sur la résurrection. Ensuite, les questions sur quel est le plus grand commandement. Et enfin, les questions sur de qui est le Christ. Est-ce qu'il est le fils de qui? Autant de questions embarrassantes parfois qu'on pose à Jésus pour le tester et pour l'emmener dans le piège. Mais Jésus a toujours eu cette sagesse de pouvoir s'en sortir. Nous allons apprendre comment il fait, pourquoi il le fait, quand il le fait et où il le fait, avec qui il le fait, pour que nous puissions aussi être prêts au cas où les gens viennent nous fatiguer avec leurs questions. Bien-aimés en Christ, retournons donc dans la première question qui nous est posée. De savoir ceci, que retenir de la parabole des noces? Je m'en vais de retourner à cette fameuse parabole des noces pour en savoir davantage avec nous ensemble ce que la parole nous dit, ce que l'Esprit nous révèle ce matin. Il est écrit à partir du verset 1. Jésus prenant la parole, le parla de nouveau en parabole et il dit, la parabole, ou bien le royaume, pardon, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez au festin. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, Liez-le, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Bien-aimés, ce passage nous interpelle à plus d'un titre. D'abord, il faut comprendre le contexte. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé à toi, en tout cas, il m'arrive souvent à moi, de lancer des invitations, soit pour une fête ou bien soit pour une réunion. Et souvent, ma frustration est très grande quand le jour de la fête ou bien de la réunion, ceux que j'ai invités, je ne les vois pas. Ou bien que j'ai invité, qui n'ont même pas répondu à l'invitation. Imagine, tu prends tout ton temps, ton argent, que tu prépares une fête ou tu prépares une réunion, et que les gens qui sont censés venir bénéficier de cette fête ou bien profiter de cette réunion ne viennent pas. Personne ne sera content de ça. Au niveau de notre leadership, je dis souvent à mes leaders, si vous voyez que vous ne pouvez pas venir à un meeting, à une réunion, soyez poli, soyez respectueux, soyez considéré et dites tout simplement absence excusée, je ne peux pas venir. Mais si vous devez venir, venez. Et quand vous devez venir, venez à l'heure. Parce que ce sont des choses qui nous donnent nous-mêmes du respect et qui aussi donnent du respect à celui qui a pris la peine de nous inviter. Donc vous comprenez quelle est l'attitude de ce roi qui invite. Et les gens sont plus ou moins indifférents à son invitation. Il les a jugés d'être des personnes indignes. D'abord, nous devons remarquer ici qu'il y a trois catégories de conviés. La première catégorie, c'est ceux qui refusent de venir au festin ou ceux qui s'excusent pour ne pas venir. C'est des personnes qui ont été disqualifiés d'eux-mêmes, sans savoir réellement pourquoi ce festin était important. Nous allons en reparler. La deuxième catégorie, c'est ceux qui vont plus loin pour abuser des serviteurs qui ont été envoyés pour les inviter. La Bible dit ici qu'ils se saisirent d'eux et ils les tuèrent, ils les outragèrent, ils les tuèrent. Eux aussi, ils ont leur condamnation après jugement. La troisième catégorie ici, c'est ceux qui sont venus et ont répondu favorablement à l'invitation, mais qui ne s'étaient pas préparés, car ayant oublié que ce n'était pas n'importe quelle invitation, c'était l'invitation aux noces du fils du roi. C'était une invitation royale. Bien-aimé, ton président ou ton chef ou ton patron du bureau ne peut pas t'inviter à une fête et tu vas te présenter en pyjama, par exemple. Quand tu viens à la fête, tu prends la hauteur de l'importance de la fête et tu t'habilles comme il faut. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes chaque jour invités par Dieu pour nous préparer aux noces du festin des derniers temps. Tu vas me dire, frère Orphée, comment est-ce que nous sommes appelés, nous sommes interpellés? Tout simplement, Dieu nous a dit. Il nous a révélé par Christ. Quand Christ devait partir, le tout dernier acte qu'il a posé, c'était quoi? Il a invité ses apôtres et disciples à un dîner. Au cours de ce dîner, il a pris le pain, il a rendu grâce, il l'a donné. Il a pris le vin, il a rendu grâce, il l'a donné. Il a dit, voilà, ceci est mon pain, ceci est mon sang, prenez-le, etc. Il les a conviés à manger ensemble. Dieu va nous interpeller devant que nous sommes sur cette terre et va nous aider à nous préparer parce que tôt ou tard, le même repas aura lieu dans les cieux quand le jour du jugement sera venu et que Dieu prononcera sa sentence comme ceux qui ne le méritent pas et donnera sa récompense à ceux qui le méritent. Tu comprends donc que Dieu fait des efforts à travers l'évangélisation dans le monde, à travers les signes et les prodiges qu'il nous montre, et à travers même sa visitation parfois dans nos songes, pour nous dire, préparez-vous, sortez de la mauvaise vie dans laquelle vous êtes, libérez-vous de vos oppresseurs et suivez-moi, recevez celui qui a accepté de se sacrifier pour que toi et moi nous soyons sauvés, Jésus-Christ. Et recevons l'Esprit de Dieu pour qu'il nous pose le signe d'être reconnus comme enfants de Dieu, comme fils et filles du Dieu vivant, appelés à grandir, à mûrir pour porter beaucoup de fruits. Bien-aimé en Christ, tu dois aussi te demander, et comme toi, je suis d'accord avec toi, qu'il faut bien comprendre ce concept du royaume de Dieu, ou qu'on appelle encore le royaume des cieux. Je vais essayer d'approfondir un peu à travers les recherches que j'ai faites pour que nous puissions avoir la même compréhension de ça. Bien-aimé, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est mentionné plusieurs fois dans les évangiles. On vient d'en parler tout à l'heure dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Mais nous pouvons aussi retrouver ça dans Marc, chapitre 1, verset 15. Au chapitre 10 de Marc aussi au verset 15. Au chapitre 15 de Marc aussi au verset 43. On en parle abondamment. Nous pouvons retrouver ça aussi dans Luc, au chapitre 17, verset 20. Et autre part ailleurs, dans le Nouveau Testament, quand il s'agit du livre des Actes, par exemple, chapitre 28, verset 31, Paul présentait ce qui a trait au royaume des cieux. C'est même le grand message que nous devons vraiment retenir quand nous parcourons le Nouveau Testament, le royaume des cieux. Paul en parle aussi aux Romains, au chapitre 14, verset 17. Il en parle aussi à l'église de Corinthe, à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Bien-aimé, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est une expression synonyme. Mais ça peut porter parfois quelques explications suivant le contexte biblique que nous avons. Au sens large du terme, le royaume de Dieu est tout simplement le règne de Dieu, éternel et souverain de l'univers. Plusieurs passages donc de la Bible démontrent que Dieu est souverain. C'est lui qui a créé la création, c'est lui qui a créé les créatures, c'est lui qui a créé toi et moi. Donc ici, c'est normal que le maître qui t'a créé, ton créateur, soit souverain sur toi. Ta vie, par exemple, ne t'appartient pas. Si aujourd'hui tu t'enlèves ton souffle, c'est fini, tu es parti. Donc incontestablement, il règne sur la création. Dans le psaume 103, verset 19, il nous a dit ceci: L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine sur tout l'univers. Amen. Et quelqu'un a fait cette expérience du règne de Dieu, bien qu'il pensait qu'il était le plus grand souverain, le roi Nebuchadnezzar, pardon. Vous vous rappelez, quand Dieu lui a montré qu'il était garçon et qu'il ne l'était pas, il s'est écrit dans Daniel 4, verset 3, que la domination de Dieu est éternelle. Amen. Même les autorités terrestres sont établies par Dieu. Ceux qui disent qu'ils sont présidents, ils sont rois, etc. C'est Dieu qui permet qu'ils soient là-bas. Si Dieu dit ça suffit pour eux. Le roi Nabuchodonosor a compris cela. Dans un sens, donc, le royaume de Dieu incorpore toutes choses, sans exception ni exclusion. Mais quand nous allons dans un sens beaucoup plus étroit, le royaume de Dieu est le règne spirituel que Dieu a dans le cœur de l'homme. Je suis l'avis de ceux qui acceptent volontairement, délibérément, de se soumettre à son autorité. Ceux qui défient l'autorité divine et refusent de se soumettre à lui ne feront donc pas partie de son royaume. Amen. Ceux qui, au contraire, reconnaissent la seigneurie de Dieu fait homme, qui est Jésus-Christ, et se soumettent volontiers, délibérément à lui dans leur cœur, et veulent marcher à sa suite en toute obéissance, en humilité, ce sont ceux-là qui font partie du royaume de Dieu. Dans ce sens, le royaume donc de Dieu est spirituel. Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde-ci, parce que le royaume de Dieu avant tout, là, c'est aux cieux que cela se trouve. Dans Jean 18, verset 36, nous voyons cela. Mais Dieu a décidé de revenir encore habiter parmi les hommes, dans sa présence, et de leur faire bénéficier de tous les avantages que cela confère à ceux qui font partie de son royaume. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a apporté. Quand il a commencé sa prédication, il dit, convertissez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. Et donc Jésus a prêché la nécessité de la repentance qui est une condition sine qua non pour entrer dans le royaume. Vous verrez ça dans Matthieu 4, verset 17 que nous avons déjà étudié, ou bien dans Jean 3, verset 5 à 7 que nous allons étudier aussi. Là où Jésus dit qu'il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il démontre clairement que cela équivaut à ce que toi et moi on a pu savoir, le salut. Bien-aimé, est-ce que tu as eu ton salut? Est-ce que tu es convaincu aujourd'hui que si Dieu t'appelle de nouveau à lui et te retire le souffle de vie, est-ce que tu vas aller à sa rencontre sachant que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as pas, aujourd'hui est un nouveau jour, il faut l'avoir. Troisième explication sur le royaume de Dieu ou bien le royaume des cieux, c'est les Écritures aussi en parlent quand il s'agit du règne de Christ qui va revenir sur terre. Au sens strict du terme, pendant ce qu'on appelle le millénium. Le livre de Daniel, par exemple, l'explique en disant, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais ébranlé ni détruit. Dans Daniel 2, verset 4, 44, nous verrons aussi ça dans Daniel 7, verset 13 à 14. Beaucoup d'autres prophètes dans le Nouveau Test, dans l'Ancien Testament, pardon, ont prédit les mêmes choses. Par exemple, dans Abdias, verset 1, pardon, Abdias chapitre 1 verset 21, Habacuc chapitre 2 verset 14, Michée chapitre 4 verset 2, Zacharie chapitre 14 verset 9, et tous, ils en ont parlé. Allez vérifier ça. Certains théologiens même vont plus loin pour employer l'expression royaume de gloire en référence à la manifestation visible à venir du royaume de Dieu et l'expression royaume de grâce parfois aussi. Pour sa manifestation cachée, présente. Bien-aimé, les deux sont liés. Jésus a établi son règne spirituel sur terre dans l'Église et il établira le jour qui vient bientôt son règne physique dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc, nous comprenons un peu que le royaume dont on parle ici dans Matthieu 22 est un royaume réel. C'est une présence de Dieu dans nos vies. Mais aussi, c'est une présence physique de Christ qui revient bientôt. Es-tu prêt pour participer à cette noce? Ne sois pas parti d'une des mauvaises catégories que nous avons vues auparavant. Ceux qui refusent ou s'excusent, ceux qui abusent, et ceux qui, malgré qu'ils ont accepté l'invitation, ne sont pas préparés, n'ont pas eu le temps d'obtenir le salut et d'être revêtu de l'habit de noces qui est en fait Christ dans son esprit. Car vois-tu, bien-aimé, le jugement divin viendra contre toi. Et comme Dieu ou le roi s'est exprimé à celui qui était indigne, bien qu'il soit venu à la fête, il dira, jetez-le dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé, rappelle-toi, beaucoup d'entre nous sont appelés, mais très peu seront élus. Que Dieu nous fasse la grâce d'être parmi ses élus, parce que c'est très important que nous soyons tout le temps en Christ, que nous devenons des fils et des filles du Dieu vivant, et que nous jouissons de tous les droits qui sont conférés, tout en accomplissant tous les devoirs qui nous sont demandés. Amen. 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 Et avec cette petite transition, nous allons passer à la deuxième question, qui était de voir si nous sommes interpellés d'apporter des réponses justes et justifiées aux questions difficiles ou parfois même des questions pièges, où nous sommes demandés de donner des solutions simplifiées et appropriées aux problèmes critiques. Quelle attitude nous devons adopter à l'instar de ce que Jésus-Christ a fait ici face à ces interrogations qui venaient de ses adversaires et qui lui a permis de leur imposer le silence. Bien-aimé en Christ, d'abord il faut savoir que tu le veux ou tu le veux pas, ou tu auras toujours à répondre à des questions. Déjà, moi en tant que papa à la maison, quand je rentre, mes enfants me posent mille et une questions. J'avoue que parfois il y a certaines questions qui me dépassent. Et quand c'est comme ça, je suis honnête avec eux. Je leur dis, ça là, je ne sais pas, mais si tu me donnes un peu de temps, je vais aller faire mes recherches. et je viendrai te donner. Ou bien, je les engage même dans la recherche en leur disant, et si tu allais seulement sur Google, par exemple, pour taper le nom ou bien le mot que tu es en train de chercher, Google pourra te répondre et on pourra en discuter ensemble. Et ils le font. Souvent, quand je fais les études publiques avec mes garçons, je leur dis, OK, ce mot, tu as compris. Ils disent, non, OK, allons-y sur Google. Et on cherche ensemble. Tout ça, là, c'est toujours dans cette logique d'aider chacun à comprendre la signification d'un mot, à comprendre la signification d'une réalité, à comprendre la signification de ce qui nous est donné dans nos études. Très, très important. Et nous pouvons déjà dire que quand c'est dans le contexte spirituel du terme, comme dans le cas de Jésus ici, nous avons tous reçu une promesse. Et cette promesse se retrouve dans Matthieu 12, versets 11 à 12, que nous avons vu ici. Si tu as oublié, je vais te le relire. La Bible dit ici, à partir du verset 11, que quand on vous mènera devant les synagogues, ou bien devant les magistrats ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ça veut dire que tu sois interpellé ou pas, que tu sois même forcé ou pas, si tu as le Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit sera ton advocate, sera ton avocat, sera celui qui t'inspirera ce qu'il faut dire, au moins il faut le dire aux personnes à qui il faut dire cela. Ça, c'est déjà le premier acquis que nous avons et dont nous devons nous réjouir et rendre grâce à Dieu pour cela. Deuxième élément qui rentre en jeu pour être prêt vraiment pour faire face à ce genre de challenge ou bien de défis à relever, c'est que nous avons reçu aussi des dons spirituels qu'on appelle la parole de sagesse et de connaissance. Bien-aimé, si tu ne te rappelles plus de cela, on va aller faire les recherches et comprendre un peu davantage c'est quoi cette affaire de parole de sagesse et de connaissance. Nous voyons que les dons spirituels de parole de sagesse et de connaissance se retrouvent dans le livre de Romains, chapitre 12, du verset 6 à 8. Ça se retrouve aussi dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11, comme dans 1 Corinthiens 12, verset 28 aussi, on le retrouve. Dans une seule d'entre elles, 1 Corinthiens 12, verset 8, mentionne que les dons de la parole de sagesse et de connaissance sont explicites. Mais la nature exacte de ces dons prête souvent à confusion. La meilleure approche possible est de décrire ce qu'ils ne sont pas. Alors allons-y pour comprendre un peu. Pour certains pentecôtistes, un mouvement charismatique de l'Église, ils pensent que le Saint-Esprit peut s'adresser à un croyant par l'intermédiaire d'un autre pour lui apporter donc une révélation concernant sa situation ou une décision qu'il doit prendre. Ceux qui comprennent ainsi ces dons emploient souvent donc des formules du type « J'ai reçu un message de Dieu pour toi, Dieu m'a parlé pour toi ». Prétendant ainsi parler au nom de Dieu et exigeant une obéissance stricte à ses paroles. Bien-aimé, ça m'est même arrivé que Dieu m'a dit de te dire. Et j'écoute calmement, je dis, OK, si Dieu t'a dit de me dire, pourquoi lui-même ne peut pas venir me dire? Donc je demande à ce que Dieu me montre par des signes ou bien par une confirmation ce qu'il t'a dit de me dire. Bien-aimé, il faut faire très attention à ce genre de choses parce que cette interprétation s'approche dangereusement d'un déni de la doctrine de la suffisance des Écritures. C'est les Écritures même qui parlent. Si Dieu continue donc de révéler sa volonté, sa sagesse par des révélations spéciales, sa parole est-elle vraiment suffisante pour que nous soyons formés et équipés pour toute bonne œuvre, comme nous le montre le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 17? Dieu nous a-t-il vraiment donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété, comme nous rappelle 2 Pierre, chapitre 1, verset 3? Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous parle jamais par l'intermédiaire de quelqu'un. Je n'ai pas dit ça. Mais si de tels messages sont fréquents et que nous avons besoin d'être dirigés plutôt par des hommes que par les Écritures, alors la parole de Dieu est insuffisante. Comme elle s'est affirmée même d'elle-même, Devons faire très très attention à ces choses. Donc ensuite, ce qu'il faut considérer, c'est que si les paroles de sagesse et de connaissance ne sont pas des dons prophétiques ou de révélation, que sont-ils alors? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils sont distribués par le Saint-Esprit pour l'édification du corps du Christ et pour le bien de tous. C'est ce que nous rappelle 1 Corinthiens 12, verset 7. Le désordre qui caractérise souvent les églises qui pratiquent les paroles de sagesse et de connaissance sous forme de dons de révélation n'est certainement pas au bénéfice de tous, pas du tout. Ça donne la supériorité des uns sur les autres et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu dit qu'il ne fait acception de personne. Les messages du Seigneur, confus, obscurs, parfois contradictoires, ne viennent pas de Dieu. Bien-aimé, il faut être sûr de ça. Il faut avoir de la sagesse dans ça. Car il n'est pas un Dieu de confusion ni de désordre, comme le rappelle 1 Corinthiens 14, verset 33. Il ne contribue pas non plus à l'unité ni à l'édification des chrétiens. Au contraire, ils sont source de division et de querelles dans le corps, et source même de convoitise parfois. Donc, ceux qui reçoivent de telles révélations s'en servent souvent pour accroître leur pouvoir, leur autorité, leur influence sur les autres et les rendre dépendants d'eux. Faisons attention. De tels abus ne viennent pas certainement de Dieu, qui est un Dieu qui est juste et qui est bon. Amen. Donc, essayons de voir. La parole de connaissance, donc, c'est le terme parole, indique qu'il s'agit d'un don de parole, quelle capacité de parler. Il s'agit de comprendre et de communiquer clairement les vérités bibliques avec discernement, de manière à ce qu'elles s'appliquent à toutes les situations de ta vie. La méditation que nous faisons à BMVG, c'est dans ce sens-là. Chaque fois que nous ouvrons la bouche pour pouvoir communiquer, c'est que nous avons pris le temps de faire les recherches et nous avons un souci de pouvoir clarifier ce qui peut paraître un peu confus, sans aller au-delà du cadre qui est défini par la Bible. Ça, c'est au niveau de la parole de sagesse. Mais au niveau de la parole de connaissance, c'est un autre don de la parole. Il s'agit d'une compréhension de la parole qui n'est possible que par une révélation divine. C'est vrai que parfois, quand nous sommes devant des paraboles comme celle que j'ai présentée en premier point, il nous faut une meilleure compréhension. C'est là où le Saint-Esprit intervient pour nous ouvrir les yeux, pour nous donner des révélations. Ceux qui ont ce don de profondeur des Écritures, cette profondeur de Dieu et le mystère de sa parole, c'est eux, on dit qu'ils ont la parole de connaissance. Donc vous voyez à peu près la différence entre les deux. Bien-aimés, pour terminer, dans l'attitude à adopter aussi pour que on puisse être en mesure de pouvoir faire face aux questions et de pouvoir faire face aux situations et de pouvoir apporter les réponses qu'il faut ou bien les solutions qu'il faut, c'est que nous devons aussi cultiver les valeurs bibliquement correctes, l'étude des Écritures pour que chaque fois on puisse se ranger comme Jésus l'a fait en disant, il est écrit. Tout ce que nous dirons ici dans nos méditations, dans nos partages, si ce n'est pas dérivé de ce qui est écrit, si ce n'est pas appuyé par ce qui est écrit, ça n'a aucune valeur. C'est pour ça que nous faisons très attention pendant nos méditations. Ensuite, si toi et moi, nous voulons vraiment être prêts pour répondre convenablement, surtout à nos adversaires qui nous imposent des questions ou bien nous imposent des problèmes pour les résoudre, nous devons avoir une vie de prière, une intimité certaine avec le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne peut rien. En dehors de lui, tu ne peux rien. Moi, je dis souvent à nos leaders que sans le Saint-Esprit, je ne suis rien et je ne peux rien. Je ne vois rien, je n'entends rien. Mais quand je le laisse toute la place et qu'il occupe cette place à moi, alors là, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Il me rend capable. Il me rend vraiment, à la, il me rend vraiment, il me redonne ce caractère du fils que je dois avoir pour pouvoir faire face à toute forme et à toutes sortes de défis et d'adversités. Et c'est ça qui est le secret de ma victoire contre mes ennemis, le secret de ma victoire dans les situations difficiles, avec des prières importantes. Je dis souvent à mes leaders qu'il faut prendre le temps de prier. Jésus nous a demandé un minimum de 1 heure de temps par jour. Bien-aimé, aujourd'hui, combien de temps tu as passé dans la prière avec Christ, dans son esprit? La prière, c'est une communication, c'est un rendez-vous que tu as avec Dieu. N'oublie pas, ni ne néglige pas ta vie de prière. Vous avez vu qu'une fois dans la semaine, tous les vendredis, nous nous réunissions en tant que communauté pour prier. Et aujourd'hui, nous avons utilisé la technologie Zoom pour pouvoir nous retrouver en salle
et pouvoir prier. Viens à ces rendez-vous et apprends ensemble avec nous à mieux prier, la prière fervente du juste. Une autre attitude qu'il faut avoir pour pouvoir être prêt à répondre aux questions et à apporter des solutions aux problèmes, c'est de forger ton caractère de Christ en pratiquant ces réponses-là par toi-même, en pratiquant ces réponses-là avec ton entourage immédiat, ta famille. Par exemple, tu peux organiser avec tes enfants ou bien avec ton partenaire de vie, ton époux, ton épouse, des séries de questions-réponses. Faites une liste de questions que vous vous posez et venez répondre à ça. Ça te prépare pour que quand tu vas aller maintenant devant une autre communauté ou bien devant des adversaires, tu sois vraiment serein et imperturbable. C'est autant de choses importantes qu'il faut avoir. Et c'est pour cela, au niveau de cette communauté, Bimité Viganien, et dans nos programmes, nous avons créé le programme qu'on appelle le débat du jour, où nous prenons une problématique ou bien un problème du test qui a été étudié ce jour-ci, et que nous essayons de peser le pour et le contre pour essayer de trouver vraiment les solutions ou bien les réponses possibles qui sont bibliquement correctes pour qu'on ait une meilleure compréhension de la problématique et qu'on ait une meilleure application de ces choses. Car pour conclure, dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 8, Dieu a rappelé à Josué ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et mets-le en application, car c'est en cela que tu réussiras, c'est en cela que tu connaîtras le succès. Que cela soit ta portion, que cela soit ma portion, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu as passé avec nous. Ces paroles, qu'elles soient des graines, des semences, semer dans la partie fertile de nos cœurs pour commencer à grandir, à mûrir et porter beaucoup de fruits. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.